Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve à l'occasion de la sortie de Nous les Leroy avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia, et on a eu la chance de discuter avec Florent Bernard, l'auteur et le réalisateur du film. Vous le connaissez sans doute parce qu'il a écrit sur énormément d'œuvres que vous adorez, hein, que ce soit Bloqué, La Flamme, Le Flambeau, des vidéos pour Golden Moustache ou pour d'autres créateurs de contenu, ou au cinéma pour Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde, ou plus récemment Vermine. Une interview que j'ai faite aux côtés de notre chère Sophie Grèche, où il est question d'écriture, de comédie en France, d'inspiration américaine et de faire un premier film. On a hâte d'avoir vos retours sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming ou les applications de podcast. Bonne écoute.
Avec votre budget, si vous voulez faire des activités tous les jours, je vous proposerais de plutôt partir sur Bali.
Ça peut être un autre pays, on n'est pas du tout fermé. Ouais, ou si vous avez fait avec votre mari un truc un peu exotique.
Le plus exotique qu'on a fait, c'est le Futuroscope. C'est à 19 minutes de Poitiers. Et il y a une attraction où... On traverse la Vienne avec des sièges qui bougent dans un cinéma. C'est très bien fait.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien de Réaliser son trucage. Mais avant toute chose, j'aimerais faire quelque chose. En vrai, c'est un petit kiff. J'ai toujours voulu essayer de faire ça. Je vais présenter l'invité, mais un peu à sa manière. Donc notre invité, le petit prince de la comédie française, que dis-je, le roi. Longtemps, on l'a cru bloqué dans le petit écran, que ce soit sur Internet ou à la télévision, mais s'était douté de la flamme qui l'anime pour raconter ses histoires, parce qu'entre un enregistrement de son célèbre Floatcast, une vidéo pour Mike Lacalito, une aventure avec Malik Bentala ou un zoom avec Sam Raimi, il a eu le temps d'écrire et réaliser son premier long, Nous les Leroy, c'est Florent Bernard.
Ouais. Ah, c'est plaisant à vivre.
Bah écoute, je savais pas si c'était ringard ou pas d'essayer de le faire à ta manière.
Tu sais, alors je vais te dire un truc, j'épouse le ringard depuis maintenant 32 ans. Donc quoi qu'il arrive, tu me feras plaisir. Non, j'ai adoré.
Et comme à chaque interview que je présente avec elle, elle est un peu malade, de là à dire que Nous les Leroy l'a mis sans voix, il n'y a qu'un pas qu'on franchira peut-être plus tard. Elle est la Lulu de ma Charlie, la Laurel de mon Hardy, la Robin de Batman, c'est Sophie Grèche.
Oh oui.
J'ai vraiment essayé.
Mais
vraiment.
Ça va, t'es moins malade que
Vermine.
Ouais, Vermine, c'était hardcore.
En fait, Vermine, j'avais plus de voix et là, j'ai juste un putain de rhume des foins, quoi, les allergies, les pollens, donc je suis un peu
mais
en mode.
Ça m'a fait marrer de faire le comparatif. Comment tu vas, Florent?
Ça va très bien, écoute. On peut dire aux gens, on est à deux jours de la sortie.
On
du
a
film,
deux jours.
Forcément, enfin, pas angoissé, mais on va voir, quoi. Mais ça va.
Bon, juste pour commencer, avant qu'on rediscute un petit peu du film, pour que les gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore écouté l'émission qui est sortie ce vendredi, etc., comment tu résumerais, toi, un peu, comment tu repitcherais le film aux gens qui nous écoutent?
C'est une comédie sur une famille qui se comprend pas trop, qui se parle pas trop en même temps. Et le pitch, c'est une daronne qui voit ses enfants qui vont bientôt quitter la maison parce qu'ils sont grands. Et elle commence à se dire que peut-être elle a pas envie de se retrouver seule avec ce gars étant son mari. parce que voilà, c'est un truc, ça a un nom, hein, ce truc, c'est le syndrome du nid vide, qui est en gros, ouais, tu disons dans un couple tradit, disons, hein, c'est tu commences à deux, puis après il y a un enfant, un deuxième.
Puis tu redeviens à deux.
Et après tu redeviens à deux. Et le fait de redevenir deux peut inquiéter, en tout cas peut poser des questions, avoir des envies, donner des envies d'autre chose, etc. Et en face, il y a un mari qui est un peu un pur produit du patriarcat, qui est pas trop à l'écoute, qui a pas trop vu bien les messages, qui les a pas écoutés, au sens comme au figuré, et du coup, qui va paniquer et du coup organiser un espèce de truc de la dernière chance dans un road trip pour visiter des endroits cultes un peu de leur histoire de leur famille, parce que c'est quelqu'un de très nostalgique. Et ça va pas vraiment se passer comme prévu. Voilà. Dans les grandes lignes.
Comme l'impression que t'es un peu habitué à l'exercice.
Mais oui et non, parce que je suis toujours emmerdé, parce que je peux le dire, parce que là on est dans un podcast un peu cinéphile, je suis pas fou du pitch de mon propre film. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas ça qui est intéressant dans le film. C'est-à-dire que le pitch c'est pour attirer, tu vois.
Bien
mais
sûr.
Comme je suis pas fou du pitch de Funny People, comme je suis pas fou du pitch de plein de classiques du cinéma en fait. C'est vraiment un film de personnages et c'est ça que je voulais traiter. Je voulais parler de la famille et je voulais trouver le bon écrin pour raconter l'histoire de cette famille.
Bah justement, on se posait la question avec Sophie, le point de départ, le tout point de départ de toi, le sujet, l'écriture, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était raconter un couple qui est sur la brèche? Est-ce que c'était raconter quelque chose que toi, t'as peut-être un peu vécu plus jeune? Est-ce que c'est parler de la France périurbaine, parce qu'il y a un thème hyper important, je trouve, dans le film, ou est-ce que c'était juste je veux faire ma comédie?
En vrai, c'est tout. Hein. C'est tout. Non, mais c'est vrai, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que je voulais faire une comédie parce que j'ai des influences en comédie peut-être plus américaines, anglo-saxonnes, et en tout cas aussi françaises, mais d'une certaine époque. Moi, je suis fan de Jaoui Bakri, de Patrice Lecomte, de tout ça. Donc, j'avais envie de faire ça avec ma vision de la famille, ma vision de d'une famille dysfonctionnelle, avec forcément, vu que c'est ma vision, des choses que j'ai pu vivre aussi, en tout cas que j'ai pu observer. Et après, il y avait plein d'ambitions. J'avais aussi envie que les adolescents ne soient pas des second rôles, en tout cas pas des faire-valoir, parce que, et je juge pas les scénaristes qui le font, mais c'est vrai que il arrive que les scénaristes prennent le parti de s'intéresser d'abord au père et à la mère. Et du coup, ben, les ados, c'est un geek, une gothique, etc., etc. Et moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup de films. Je pense qu'on est un peu fait du même bois tous autour de la table. Et du coup, j'avais un petit manque de représentation parce que moi, j'avais pas des immenses problèmes comme dans 13 ou dans des films comme ça. Mais en même temps, je me sentais, voilà, j'avais des problèmes. Et mes parents, c'est un peu le personnage de Charlotte qui est tout le temps comme ça avec sa fille, étaient un peu les rois du « oh, ça va ». Tu vois, ce fameux truc de quand tu seras grand, t'en riras, tu verras que c'est pas si grave, etc., etc. Et moi, j'étais genre, oui, mais là, je n'en ris pas puisque je le vis actuellement et c'est grave pour moi. Donc voilà, c'était un mélange de tout ça. Et la famille était un sujet que je voulais aborder. Le road trip était un super genre pour faire venir plein de second rôles. Et je trouve que c'est, vu que moi, j'aime bien des gens qui discutent, le road trip, c'est le pareil, c'est le bon format pour pouvoir faire parler des gens sans que ce soit ennuyeux, parce que du coup, ils vont d'un point A à un point B. Et puis voilà, sans trop en dire sur le film, j'avais mon idée déjà de comment court-circuiter ce truc-là un petit peu avec les attentes du spectateur et tout. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça et ça arrive assez tôt. J'ai pas un matin, je me réveille et j'ai le pitch par exemple. C'est plutôt des envies mélangées. Parce qu'en vrai, la famille dysfonctionnelle qui fait un road trip, c'est presque un genre en soi. Enfin, aux
États-Unis, Little Miss Sunshine,
Little Sunshine, National Lampoon Vacation. Je parlais de Dingo et Max dans le truc DVD. C'est vrai aussi. Voilà, c'est plein de films qui en parlent. Et je trouve que c'est assez... Vu que c'est devenu un genre en soi, ça me dérangeait pas d'aller là-dedans.
Mais c'est intéressant parce que, tu vois, moi, c'est évidemment que ça m'a rappelé Little Miss Sunshine, mais toi, t'as décidé de boucler. Genre, normalement, les road trips, ça va d'un point A à un point B, et là, c'est intéressant que t'aies décidé de faire une boucle, métaphoriquement,
c'est
en tout
cas. C'est un peu ça. C'est un peu... Alors, j'ai pas commencé à citer des grands trucs, mais oui, c'est un peu Ulysse, c'est un peu tout ça, c'est un peu... Ouais, je suis désolé, j'avais prévenu. Mais c'est un petit peu ce truc de le voyage est plus important entre eux que le voyage en lui-même, quoi. C'était toujours un peu ce truc-là, ouais.
En tout cas, c'est intéressant. C'était même pas une de mes questions, mais c'est en t'entendant pitcher le film. Tu parles beaucoup du point de vue de Charlotte Gainsbourg, tu parles beaucoup du point de vue de la mère. Est-ce que genre, c'est le personnage avec le plus d'ancrage réaliste pour toi ou
En fait, c'est assez rigolo parce que quand j'ai commencé à écrire le film, vu que c'était le père qui faisait le bordel, instinctivement, mais sans le faire exprès vraiment, je m'étais plus intéressé au père parce que j'avais des choses à dire sur le père. Et plutôt des choses pas sympas à dire sur le père. Et j'avais envie de traiter ce truc-là. Mais pour moi, la mère était limite le point de vue, en tout cas au début. C'est elle qui déjà lançait l'histoire et tout. Et donc, je propose à Charlotte Gainsbourg et elle me dit qu'elle aime bien le ton, qu'elle aime bien le perso, etc. Mais qu'elle se trouve en deçà, quoi. Elle trouve que c'est vraiment le film sur le père. Et je fais « Ah merde, mais c'était pas le but, moi. » Au contraire, justement, je voulais vraiment faire un truc à égalité. Et donc, j'ai retravaillé le scénario avec ses retours, avec ses questionnements.
Okay.
Par exemple, elle me disait... Je ne comprends pas pourquoi elle le quitte. Sur les premières versions, hein, je parle depuis, on a bien compris. Mais sur les premières versions du scénario, elle disait, je trouve que du coup, ça fait d'elle une méchante. Et elle dit, je sens que c'est pas ce que tu voulais faire. Mais là, j'ai l'impression d'être un peu la méchante de service parce que je ne comprends pas pourquoi elle le quitte. Du coup, ça m'a poussé à plus travailler elle, ses défauts et aussi d'aller plus loin sur le personnage du daron. Et c'est aussi pour ça que le choix de José Garcia était important pour pas le perdre totalement parce qu'au final... On va assez loin avec ce personnage dans son côté un peu dur et parfois même cruel, faut le dire. En tout cas, ouais, difficile. Et voilà, donc on a avancé un petit peu comme ça. Mais moi, j'avance beaucoup avec les acteurs. De toute façon, je leur fais beaucoup lire des choses.
Bah, c'était une de mes questions. Le casting, justement, t'as écrit avec des acteurs en tête pour tes personnages. Ça s'est fait comment? Genre, t'avais une petite liste prédéfinie?
Ouais. J'écris toujours pour des acteurs parce que je sens que l'acteur... le ressent, en fait, tout simplement. Je crois beaucoup en l'instinct du comédien. Et j'ai besoin de ça pour m'amuser, j'ai besoin de ça pour avancer. C'est ce que je trouve cool à faire. C'est que je vois pas l'intérêt. Je vois presque, en tout cas, je le vois moins de pas le faire comme ça, en fait, de juste écrire et se dire, bon, ben voilà, l'acteur en fera à sa sauce. Non, moi, j'ai besoin, ça me motive, en fait, d'écrire pour lui de ou pour elle.
C'est-à-dire que t'écris avec la diction de la personne en tête?
Ouais, bien sûr, avec ce que je connais de sa filmographie, puisque moi, je suis assez. Je suis un peu un geekos, donc voilà, moi j'ai vu tous les films de la filmographie de chacun. Voilà, j'ai besoin de connaître bien le travail du comédien avant de lui proposer un truc. En l'occurrence, Charlotte, j'avais pas grand chose à faire parce que j'étais déjà un immense fan. Et voilà, donc j'essaie d'écrire. L'idée, c'est pas de faire un truc qu'elle a déjà fait, mais de jouer peut-être avec ce qu'elle a pu déjà faire et se dire putain, mais en fait, en l'occurrence, avec Charlotte Gainsbourg, c'est assez facile parce qu'elle a pu aller jusque-là chez certains metteurs en scène. Donc, ça désinhibe d'aller dans certains endroits où on sait qu'elle sait le faire bien et que. si on le demande en tout cas et qu'elle trouve ça logique, elle le fera. Voilà, donc tout ça, effectivement, j'écris avec eux en tête. Et puis même plus que ça, j'écris avec eux. C'est-à-dire qu'une fois que j'écris mes scènes, mon scénario, et je peux le tourner comme ça. C'est-à-dire que j'en suis content. C'est pas une version de travail, c'est une version qui, pour moi, est def, mais je la fais lire, on fait des répétitions, on fait des lectures, et là, elle va encore évoluer. Et là, on va, quand je dis évoluer, c'est pas forcément avoir des choses en plus, c'est parfois enlever des trucs, c'est parfois modifier des répliques. Je préfère que l'acteur joue sa réplique et quand elle sonne mal, je change la réplique plutôt que l'acteur se force à essayer de la faire rentrer. Ou même si au final elle sonne vraie, je préfère qu'on travaille ensemble et que trouver celle qui sonne instinctivement, bien à l'oreille. Quoi. Je me vois toujours un peu comme un gars qui fait des partitions, mais c'est eux qui vont monter sur scène et jouer. Quoi. Donc en fait, il y a un truc où c'est eux qui vont avoir le truc. Donc on le fait ensemble. Et le bon côté du cinéma, c'est qu'on a plusieurs prises. Donc quoi qu'il arrive, fais-en deux pour moi et on en fera deux pour toi et tout va bien. Quoi. Donc oui, moi je travaille beaucoup, beaucoup en collaboration parce que je pense qu'un film, il gagne en plus, vraiment.
Il y a un truc intéressant sur l'écriture dont tu parlais justement, c'est cet équilibre dont tu parles, de est-ce que la mère prend plus de place que le père, etc. Nous, on est trois à l'avoir vu à Combini. J'en ai pas encore parlé à Sophie, je sais pas précisément quel est son ressenti là-dessus, mais on est trois à Combini à avoir vu le film. Et on a tous les trois été extrêmement émus à trois endroits différents. J'ai un collègue, ça va être plus sur la notion du divorce, après on va en parler. Manon, que les gens qui écoutent nous connaissent un peu, elle c'était vraiment la relation mère-fille, et moi c'est vraiment la relation père-fils qui m'a détruit. Et donc il y a un truc qui est fort, je trouve, dans l'écriture des persos et dans le cheminement de l'intrigue, etc., c'est qu'en fait chacun y trouve un peu son compte et chacun est touché à un certain endroit. Je sais pas où c'était toi.
Moi c'était plutôt la relation mère-fille.
Marrant, mais du coup ça prouve que c'est réussi, parce que en fait si tout le climax émotionnel c'était juste le divorce, on n'aurait pas tous vécu la chose de la même manière. Et je sais que j'étais à une projection presse avec notamment un journaliste de première qui lui aussi a été hyper ému, tu vois, et on s'est tous dit ah putain, moi c'est vraiment ça, et toi t'étais ému quand, ah ouais putain c'est marrant, moi c'est vraiment et moi je crois que c'est vraiment la scène où le père s'explique avec son père. Donc voilà, chacun a des endroits, je trouve, et je trouve que ça, c'est un truc d'écriture que je trouve assez fort, parce que assez précis. Gentil, et du coup, est-ce que c'est un truc qui est venu ça aussi au fur et à mesure ou pas?
Oh, c'était assez tôt, hein, en vrai, hein, dans le processus. Hein, c'était assez.
Le fait que tout le monde ait un peu sa place à la fin.
C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu même l'ambition générale du truc. Il y en a beaucoup, des comédies sur la famille, des comédies dramatiques sur la famille, les familles dysfonctionnelles, tout ça. T'as plein de films géniaux qui ont été faits.
Ouais, mais tous n'ont pas la place d'eux, tu vois.
Mais ils le choisissent, en fait. C'est ça, en fait. Je pense qu'ils font vraiment le choix de, en fait, on va se concentrer que sur les ados ou que sur les parents. Ou moi, le film s'appelle Nous les Leroy pour cette raison. Je voulais qu'on s'intéresse à tous. Et c'est aussi pour ça que le road trip est plutôt pas mal. C'est que d'abord, on est peut-être plus sur les parents et on va ouvrir sur les adolescents. Et tous, on sont là du début à la fin. Mais j'avais un peu cartographié mes moments, entre guillemets. Et après, c'est juste de la construction narrative de. Pour que cette scène-là ait un impact, il faut que ça fasse écho à un truc qui arrive plus tôt. Et c'est ça aussi le bon côté de faire de la comédie dite dramatique, même si je préfère mélancolique, parce que pour moi, il n'y a pas de drame dans le film, mais il y a des trucs un peu émouvants. C'est qu'un truc qui est juste une blague, d'un coup, peut servir plus tard. Du coup, tu le vois moins venir. Je ne dis pas qu'on ne voit rien venir, mais la comédie permet de brouiller les pistes un petit peu. Parce que dans un film, surtout quand c'est des gens comme vous, quand regardez beaucoup, vous sentez venir. Quand là, il y a une scène, tu dis oui, bon, ça va servir plus tard. Mais la comédie, le bon côté, c'est que tu peux un peu t'amuser, mettre plein de choses. Et il y a des trucs, tu te dis, ça va servir. Bon, ça servira pas. Et ça sert. Ah, putain, c'est marrant. Ça sert. Ah, c'est rigolo. Et voilà. Ça, c'est assez facile. Donc, du coup, la comédie, comme le drame, mais comme l'horreur d'ailleurs, vu que c'est surtout la surprise qui crée l'émotion, c'est plus facile. C'est plus facile, entre guillemets. Hein. Je dis pas que c'est facile ce que j'ai fait, mais c'est plus aisé pour moi, avec mes outils à moi, de surprendre le spectateur et d'un coup le faire marrer à un moment ou l'émouvoir à un autre. Mais oui, l'idée, c'était que chacun, qu'on puisse les comprendre, en fait. C'est surtout ça. L'idée, c'est pour ça que le travail avec Charlotte a été capital sur son personnage à elle. C'était d'avoir le recul et de les comprendre. Moi, j'aime bien, c'est une phrase de Spike Lee. Quand il parlait de Do the Right Thing, il dit « Je me suis un peu efforcé à ce qu'il n'y ait pas vraiment de grands méchants. » Il dit que tu sois un petit peu d'accord avec tous et en même temps un peu pas d'accord avec tous. C'est-à-dire que tu comprends que le pizzaiolo, il pète un câble et tout, mais en même temps, il est un peu raciste, le pizzaiolo. Et puis tu comprends que le personnage de Spike Lee, il soit énervé, il n'en puisse plus, mais en même temps, c'est un peu un petit con aussi. Voilà. Et il distribue un peu les cartes comme ça. Et du coup, moi, j'avais un peu ce truc-là en tête aussi, en me disant « Il faut que tous ces personnages, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour eux, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. » Mais il faut ni que ce soit des ravis de la crèche, des gens, des bisounours, etc., ni des horribles personnes. Et donc, c'est C'est ça le bon côté de faire plein de versions de scénario. C'est presque de la science, quoi. C'est, tu en mets un peu plus là, un peu moins là. C'est une recette de cuisine, quoi. Tu t'essayes de faire en sorte que ça. Et c'est là où les trois écritures, écriture, tournage, montage sont utiles. C'est que moi, parfois, au montage, enfin, au tournage, pardon, je faisais pas des versions entières différentes, mais sur des mini trucs, je changeais un peu la tonalité. Et au montage, j'avais le choix.
Ouais.
Pour vous dire une scène, alors je vais pas vous la dire exactement, mais vous verrez de laquelle je parle parce que vous avez vu le film. Je vais pas aller dans les détails parce que ça spoil un peu, mais il y a une scène où un personnage affiche quelque chose au mur, et à la fin ça devient une blague puisque en fait la personne l'enlève.
Ouais.
Ça j'avais deux versions. J'avais la très premier degré où on la laissait, et je savais que vu que j'ai une peur panique du pathos, j'ai une peur panique du moment où justement t'es plus ému parce que tu dis non mais là t'as sorti les violons, on a compris, tu veux qu'on pleure. J'avais la version avec le petit gag sur le côté. Et vu que moi, c'est ma pudeur à moi et que je suis très sensible au pathos, enfin, j'ai toujours peur d'aller dans le pathos, et peut-être même c'est des fois l'extrême inverse, j'ai toujours besoin de mettre une blague quelque part. Mais vu que c'est une blague de pudeur, c'est une blague qui dit parce que je sais qu'on n'ose pas trop dire les sentiments, etc., etc., je trouve que les gens l'acceptent assez bien. Et en tout cas, dans les salles, par exemple, ça, pour le moment, pour les avant-premières, ça réagit plutôt bien à ça, ouais.
Bah c'est drôle, c'est ton premier film en tant que réalisateur, mais donc là on avait parlé évidemment de Vermine il y a quelques temps et de Jacques Mimoun il y a bien plus longtemps. Là c'est la première fois que t'as genre l'absolu contrôle entre guillemets.
Ouais.
Est-ce que t'as l'impression qu'en tant que réal, sachant que de base t'es surtout scénariste, t'as l'impression de vouloir être encore plus proche du matériau de base? Est-ce que t'as l'impression que est-ce que tu as vu genre des vraies grosses différences entre ce que t'as écrit et ce que tu vois au final, que ce soit avec Vermine ou Jacques Mimoun, et que tu voulais pas refaire avec nous le roi? Enfin, tu vois ce que je veux dire,
bien sûr. Bah en fait, ce qui est vraiment différent, c'est que quand t'es scénariste, tu deals avec ta frustration personnelle, mais qui est logique, c'est que tu n'es pas dans la fabrique du film. Même si j'ai eu de la chance de travailler avec des réalisateurs qui quand même m'écoutaient jusque, enfin tu vois, j'ai assisté aux lectures sur les deux films, je faisais des retours, enfin on m'a invité au montage des films, donc je suis pas je propose, hein, après c'est le réalisateur qui dispose, mais en vrai on a plutôt tendance à m'écouter, et parce qu'effectivement j'ai surtout travaillé en tant qu'auteur, mais vu que j'ai commencé sur internet en réalisant ce que j'écrivais, ils savent que j'ai quand même un œil, en tout cas j'ai un sens de l'image dans la comédie, disons, ou dans le film, le cinéma en général, mais principalement la comédie. Après, sur ce film-là, non, j'essaye d'avoir deux cerveaux, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit, j'essaie de pas forcément respecter le matériau d'origine, parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la collaboration. C'est important que le truc évolue, quoi. C'est important que le scénario soit pas quelque chose de figé, de fixe. Moi, je pourrais pas afficher mes scénarios, par exemple, parce qu'en vérité, c'est pas si important que ça, quoi. C'est juste une espèce de, pour moi je vois ça comme une espèce de carte qui au moins disent précisément ce que j'ai dans ma tête, et quand il se passe des dingueries sur des tournages, c'est bien d'avoir cette carte pour se souvenir, mais c'est plus un truc où on doit tous être d'accord pour avancer dans le même sens. Mais en vérité, et pourtant je fais pas d'impro sur le plateau, hein, mais les lectures, moi j'écoute tout le monde. Par exemple, il y a une scène, je me souviens, il y avait le preneur son se posait une question sur la scène. Il a pas hésité une seconde à me le dire, parce que c'est l'ambiance que j'ai voulu instaurer sur le plateau, de dire c'est une œuvre commune. Moi par exemple, j'ai insisté pour que ce soit pas écrit un film de Florent Bernard, mais écrit et réalisé par, parce que c'est pas de l'humilité ou de la fausse humilité, j'en sais rien, mais c'est juste parce que c'est ça que je trouve cool dans le cinéma. C'est peut-être le seul art qui est aussi collaboratif, quoi. La plupart des, enfin tu vois, photographe, t'es tout seul avec ton appareil, dessiner, t'es tout seul avec ton crayon, les gens qui composent, souvent ils sont quand même seuls, ils peuvent un peu collaborer avec d'autres, mais disons que tu peux le faire tout seul. Un film, tu ne peux pas le faire tout seul, c'est pas possible. Même les plus petits projets, tu peux pas étenir la cam et prendre le son, et enfin tu vois, ou alors on vient vraiment dans des trucs assez expérimentaux, extrêmes, quoi. Et c'est de cette collaboration que je trouve le métier de réalisateur fascinant. Mais quand t'es scénariste, tu peux pas participer à ce truc-là, parce que d'un coup ça t'échappe, et que c'est même mieux que ça t'échappe d'ailleurs. Donc c'est en ça où moi, là j'ai goûté un truc, réalisé un film, j'ai hâte d'y retourner, et ça va forcément changer maintenant ma façon de travailler en auteur pur. Après, la chance que j'ai, c'est que par exemple avec Sébastien Vanitschek, ça va être très facile, parce que je suis incapable de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est un grand metteur en scène, c'est un grand metteur en scène de cinéma tout court d'ailleurs, mais bon là il l'a surtout prouvé par l'horreur. Et c'est incroyable de pouvoir se dire, enfin, tu vois, c'est-à-dire que moi, je fais un peu de guitare, mais si je peux aider Jimi Hendrix à en faire, tu vois, je vais pas lui dire, non, laisse-moi la guitare, je vais jouer un peu, gars. Non, c'est bon, il part sans moi, et heureusement, parce qu'il fera des trucs forcément mieux que ce que je ferai. Donc là, c'est une sorte de frustration quand même, parce que t'as toujours ton cerveau qui a le film dans sa tête, donc ce sera jamais le film que t'as dans ta tête. Mais dans le cas de Vermine, c'était très souvent mieux que ce que j'avais dans ma tête, donc tout allait bien. Et en plus, là, sur Evil Dead, je préfère qu'ils se prennent la pression, tout ça. Moi, je suis. C'est plus simple pour moi.
Mais c'est rare comme discours, quand même. Tu t'en rends compte?
De.
Ce truc de prendre le recul de l'œuvre collective à ce point-là, de savoir mettre à distance le fait d'être scénariste et réalisateur et de réussir à mettre les deux cerveaux de côté.
Ah ouais?
Ah ouais, franchement, ouais, pour en discuter avec pas mal de mentors, ouais. Je te jure, c'est rare.
Non, en fait. Ça veut pas dire que je sais pas exactement ce que je veux, tu vois, c'est très précis dans ma tête.
Ah non, ça, j'ai bien compris.
Non, mais je pour peut-être pour l'auditeur de dire j'ai mon truc dans ma tête, mais ce serait tellement con, et surtout pour le premier, de pas ouvrir un peu à juste la discussion, juste l'échange, juste la vie. Tu vois, Charlotte Gainsbourg, je te jure, elle a apporté. C'est pour ça que je comprends pas les gars ou les bon, surtout les gars, hein, mais qui sont genre moi c'est le texte à la virgule près et tout. Je ne vois même pas où tu t'amuses en fait. Enfin, je vois pas où est le fun là-dedans. Pour moi, le fun, c'est d'avoir l'acteur qui, justement, d'un coup, va se le mettre en bouche et il va faire un pas de côté et ça va quand même être formidable. Et ça va. Moi, j'ai besoin qu'on transcende ce que je fais. Sinon, tu vois, je sais que je suis pas un assez bon auteur pour que Charlotte Gainsbourg ne s'empêche d'avoir un instinct de comédienne dessus, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Et puis surtout, c'est une œuvre où, de toute façon, à la fin, je suis devant un ordinateur et un banc de montage. Donc, quoi qu'il arrive, si à la fin, je veux quand même faire ce que j'ai décidé de faire,
oui.
J'en ai la possibilité.
Ouais, c'est sûr.
C'est juste ouvrir la possibilité de, et ça, pour le coup, vu que je suis monteur de profession, j'ai commencé en étant monteur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu plus des réalisateurs se dire, tu vois, cette scène de comédie, je vais pas faire un bête champ contre champ. Moi, je vais faire mon plan qui descend et ça va être stylé et tout. Et t'es au montage, je dis, bah, ta scène marche pas. Super. On peut pas se couvrir. Ça marche pas. Parce que ton instinct du tournage, il avait du sens. Mais maintenant qu'on est derrière un ordi et que c'est entre cette scène A et cette scène C, bah, ta scène B, elle marchait peut-être très bien sur le plateau, mais je te le dis, là, elle marche pas. Et moi, je le vois maintenant quand je vais voir des comédies, surtout parce que c'est un peu mon domaine, entre guillemets, que je connais bien. Je sens tout de suite quand le réalisateur a merdé. En tout cas, il s'est pas couvert, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, se couvrir maintenant, c'est un gros mot. Tu vois, t'as l'impression qu'un réalisateur qui se couvre, il ne pense pas sa mise en scène. Moi, je pense très bien à ma mise en scène. Je compose mes plans, je compose mon découpage. Mais ça veut pas dire que je vais m'interdire le champ contre champ dans une comédie, alors que la comédie est quand même l'endroit où le rythme est capital. Et se priver de ce rythme-là en montage, je trouve ça suicidaire. Alors, il y a des génies qui arrivent et il n'y a aucun problème. Mais moi, j'en suis pas là. Et surtout, je n'ai pas l'ego de dire je vais prouver que j'ai pas besoin du montage pour être drôle. Non, je peux juste penser mon découpage et mon cadrage au mieux, ma lumière, tout ça, essayer de faire un beau film, ça n'empêche pas, tu vois. Mais aussi de se dire, n'oublie pas, comment, tu vois, je parlais du cerveau de scénariste et de réalisateur, il y a aussi le cerveau du monteur. Il faut se dire qu'il y a une nouvelle vision et que c'est quasi la finale, quoi, la vision finale du film. Donc, il faut vraiment la respecter, celle-là.
J'ai cru comprendre dans une interview, tu expliquais, t'as tourné avec une seule cam tout, c'est ça?
Ouais, avec Julien Hirsch. Moi, au début, j'avais dit plutôt deux cams, pas pour faire des champs contre champs, parce que ça, c'est toujours moche. Mais pour non mais c'est très difficile parce que tu dois faire une espèce de lumière globale, c'est très difficile. Il y en a sûrement qui arrivent très bien, mais moi en tout cas je trouvais ça compliqué. Donc à la base, moi ce que j'avais fait dans mes courts métrages quand j'ai commencé, c'était des serrées larges, quoi. Comme ça tu peux un peu t'amuser, tu chopes un peu les trucs et d'un coup dans un bête champ contre champ, tu multiplies par deux les valeurs, donc ça donne un peu du rythme et tout. Et mon directeur photo m'a dit, moi je sais pas travailler à deux caméras. Il sait très bien le faire, hein. C'est une façon de dire. C'est juste une façon de dire, ça m'intéresse pas. Et il m'a dit, mais par contre, je te promets que j'ai une façon de m'installer, parce que pour quand on a deux cams, c'est aussi pour aller plus vite. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu verras, mes installs sont très rapides et on fera quand même des choses jolies et on tournera avec la Stab One, qui est une espèce de Steadicam en plus légère, qui est entre le Ronin et la Steadicam, en gros. Et en fait, c'est super, c'est génial. Parce qu'en fait, d'un coup, t'as un peu de vie, parce que l'épaule pure, c'est quand même un peu vénère. On en a un peu, hein, dans le film, mais on l'a plutôt dans les scènes de d'engueulade et de choses comme ça. Et dans la comédie, ça te permet d'avoir des très légers mouvements pour pas que ce soit juste boum, téléfilm, même s'il y a une ou deux scènes où on le fait parce que ça a du sens dans la narration, mais il y a toujours un peu de mouvement. Et lui m'a dit, tu verras, je m'installe très vite. Et puis, en fait, on le faisait au feeling, quoi. C'est-à-dire que mon serré large, c'était d'un coup une prise de prise. Et la troisième, je fais, bah, pendant la troisième, tu te rapproches de lui, tu vois. Et au montage, on pouvait s'amuser avec tout
ça. Et puis du coup, une seule cam au lieu de deux, en termes de rush, à la fin, pour le montage, plus pratique aussi, quoi.
Aussi, mais moi, après, vu que je viens du montage, et quand on est souvent à deux cams, de toute façon, je savais à peu près, quoi. Mais oui, c'est sûr. Et puis, Et puis je te dis, tant que t'as ton directeur photo en qui t'as confiance et qui sait s'installer vite, encore une fois, le 2-cam, c'est plutôt pour gagner du temps, en vérité, parce que comme ça, bah, tu peux faire plus de prises, etc. Mais moi, j'ai eu le temps de travailler exactement comme je voulais.
Tu parlais tout à l'heure de l'écriture, de la vanne et que c'est ce qui te plaisait au départ. Je crois que Judd Apatow, qui est quelqu'un d'important, je crois, dans ta cinéphilie.
Bah, modèle, faut pas avoir peur de le dire.
Il expliquait que lui, au départ, ses scénarios, il écrit d'abord des drames dans lesquels il ajoute des vannes. Quand moi, je vois, parce que avec Comedy, j'ai interviewé pas mal d'acteurs qui m'expliquent à quel point la comédie, c'est peut-être le truc le plus casse-gueule à faire.
Ouais.
Que ce soit Pierre Niney, Jonathan Cohen, tous le disent. C'est le genre le plus compliqué à écrire. Tu parlais tout à l'heure d'écrire des films d'horreur, que c'est limite plus facile.
Ouais.
C'est le cas ? Tu trouves ça plus facile d'écrire des trucs qui ne sont pas de la comédie, alors même que c'est ce que tu fais depuis plus de 10 ans ? Et si oui, comment tu le conçois ? Est-ce que tu le conçois un peu comme justement un Apatow ou pas ?
Oui, alors, dans l'ordre, je pense que c'est pas si simple d'écrire du film d'horreur parce que, comme la comédie, c'est un genre très populaire. Je pense que c'est ça aussi où la comédie... Ouais. Bon, déjà, les gens que tu cites, alors je sais que c'est pas que eux qui le disent, mais c'est des acteurs. Et je pense que pour les acteurs, c'est d'autant plus difficile que c'est ridicule si c'est pas drôle.
Ouais.
Ils ont l'air ridicules.
C'est
et
sûr.
C'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on pardonne très facilement de ne pas pleurer devant un drame. On ne pardonne pas à une comédie de pas rire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y a un truc un peu de... Les acteurs, ça les terrifie, la comédie. Et donc, c'est pour ça qu'ils te disent souvent que c'est ça le plus difficile. Mais en vérité, la comédie, t'as aussi... si elle est bien pensée, 2-3 gilets de sauvetage dont le montage fait partie, en vérité, et dont l'écriture fait partie, dont la... Moi, je sais que je suis très généreux en vannes. Il y a beaucoup de vannes dans chaque scène, ce qui fait que même au montage, j'en coupe. Et c'est pas grave, tu vois. Et du coup, on fait le tri comme ça et je fabrique la scène aussi au montage comme ça. Le cinéma d'horreur, c'est différent parce que y a autant de cinéma d'horreur qu'il y a de comédie. Et disons que le cinéma d'horreur, comme moi je le fais avec Sébastien, alors on n'a pas fait encore grand chose, mais sur Vermine en tout cas, et ce qu'on essaie de faire actuellement sur Evil Dead, sans trop en dire bien sûr, c'est essayer de mettre le personnage au centre. Et en fait, c'est le personnage qui lead tout. C'est le personnage qui est le moteur de tout pour moi. Si je regarde mes films préférés, il y a des trucs aussi différents que des giga blockbusters, que des films d'auteur. Il y a du cinéma coréen, anglais, américain, français. Mais tous, leur point commun, c'est le personnage. Et moi, j'en ai rien à foutre que, tu vois, s'il sauve le monde ou s'il va chez l'épicier, si ça nourrit le personnage, les deux histoires peuvent m'intéresser au même niveau, mais vraiment. Donc, c'est ça qui, moi, me motive en tant que spectateur. Et du coup, c'est ça qui me motive en tant que qu'auteur. Donc, le cinéma d'horreur, là où moi, c'est plus simple, encore une fois, c'est dans mon cas très particulier, c'est que j'ai Sébastien. Et que du coup, quand tu essaies d'écrire une scène horrifique, je sais qu'il va la prendre en main. Mais tu vois, si je te fais lire la scène de la salle de bain de Vermine, qui est une scène dont on nous parle pas mal, à la lecture, je pense pas que tu peux t'imaginer que c'est cette scène-là. Ce qui te choque le plus dans la scène, c'est la blague sur Hugo Clément, qui en fait, au final, passe très vite entre deux trucs. Et si je te dis juste, dans le reflet du miroir, on voit une araignée sortir, puis depuis toi, tu dis oui, bon, ça, je l'ai vu dans 1000 trucs. Enfin, tu vois, et c'est pas.
Ouais.
Okay. Et c'est l'intelligence de Sébastien, on se comprend sur la façon de faire, etc., etc. La comédie, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est. Oui, c'est dur, mais après, moi, j'en fais depuis 10 ans, donc j'ai peut-être aussi un peu plus. C'est comme aller au sport, quoi. J'ai peut-être un peu plus l'habitude, donc c'est moins dur, entre guillemets, de m'y mettre. Après, il y a toujours des mauvaises surprises aussi. Hein. Tu vois, ça arrive, t'es au montage et tu dis « Ah putain, la scène, elle marche pas comme je voulais. Alors vas-y, comment on fait ?» Et c'est là où je suis content de me couvrir, que je suis content d'avoir fait des versions alternatives de certaines vannes, de certains tons. Moi, j'adore mélanger les tons, en fait. Et souvent, je fais « Ouais, c'est ça. » Et du coup, c'est ça qui, moi, me permet d'avoir toujours la main sur le ton, sur ma scène, en fait.
Mais justement, j'ai l'impression que ce mélange de tons, moi, j'ai marqué évidemment « Apatow », en gros. et j'ai l'impression que ton cinéma, il est très imprégné de cinéma US, de comédie, parce que il y a tout un pan de ce qu'on va appeler la comédie indé américaine, où il y a ce parfait ratio de drame et de comédie. Souvent, c'est des films de personnages, tu l'as beaucoup dit. Est-ce que tu avais l'impression d'écrire malgré tout un peu un film à l'américaine ou pas ? Est-ce que tu as eu peur que ton film ne trouve pas de place, entre guillemets, dans le paysage de la comédie française ? Voilà, c'était un peu ma question, elle est un peu large.
Non, on n'a pas de faire des questions larges, t'inquiète.
Non, mais c'est très bien. Je sais que la comédie à laquelle je suis le plus sensible, parce que même quand je parle de Jaoui Bakri et Lecomte, c'est leur cinéma, mais c'est peut-être pas la comédie qui me touche le plus dans ce qu'ils font. Oui, elle est très américaine.
Je peux dire aux auditeurs que tu as une casquette avec Kevin Smith dessus.
Oui, voilà. Non, mais bien sûr. Hein, moi, je suis dans le DVD de Comédie, je suis en cosplay de Kevin Smith. Les gens l'ont remarqué. Mais oui, je suis fou de ça, mais je suis fou de ça parce qu'ils ont un rapport à la vanne. On parle souvent, et je pense malheureusement à raison, d'un certain snobisme parfois français sur la comédie et sur le de faire rire, tu vois, le mot populaire, il t'as l'impression que des fois il est dégueulasse en bouche dans notre langue, alors que moi je suis très heureux de dire que j'ai fait une vraie comédie populaire, en tout cas elle a été pensée comme ça. Il y a José Garcia et Charlotte Gainsbourg à l'affiche, quoi. J'ai pas voulu faire un truc méga indé, moi je veux vraiment que les gens y viennent pour se marrer et potentiellement être ému et en tout cas être diverti pendant 1h40. Ma place après, c'est marrant parce que typiquement à Pato, c'est un peu le réalisateur préféré des gens qui veulent faire de la comédie en France. Et chaque décennie, t'en as un qui se cite l'héritier d'Apatow, quoi. C'était Romain Lévy, c'était Manu Payet. Moi, je le fais aussi. Voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, par exemple, quand je lisais des interviews de Romain Lévy, je voyais que c'était pas du tout la même chose qui nous plaisait chez l'un et chez l'autre. Lui, c'était vraiment la liberté de ton, le côté bande de potes, le côté un peu trash. Alors que moi, c'était vraiment le fait d'être très dur parfois et d'être dramatique. Et que là où lui citait 40 ans toujours puceau ou super grave comme ses exemples, moi, je citais vraiment Funny People et This is 40, qui sont pas le même ton déjà, qui sont un peu différents, quoi.
Pas les plus drôles.
Voilà, c'est ça. Et moi, par exemple, je suis assez insensible à alors, c'est pas Apatow, bien sûr, mais c'est cette comédie américaine de Very Bad Trip, tout ça. C'est pas la comédie qui, moi, me plaît. Moi, j'aime bien la comédie de personnages et puis de un peu vraie vie quand même, tu vois, un truc qui ressemble à la réalité. Et c'est là aussi où je trouve que je suis assez français dans ma façon de faire, c'est que les personnages ressemblent à des personnages de la vraie vie, je pense. En tout cas, ils sont inspirés de... C'est la critique que les films aiment bien mettre sur leurs affiches, c'est un film qui vous touche en plein cœur, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très français. Moi, je me suis battu pour que ce soit pas sur la nôtre, parce que je trouve ça un peu ridicule. Parce que c'est ça que le cinéma français, j'ai l'impression, enfin, que les spectateurs français aiment beaucoup. Ils aiment que le cinéma les touche. Ils aiment qu'ils voient une aventure. Tu vois, c'est vrai, Bienvenue chez Ch'ti, Intouchable, tu prends les gros succès et d'un coup, ça leur rappelle la vie, ça leur rappelle leur quotidien, mais c'est en mieux. Et moi, c'est littéralement ce que je préfère au cinéma. C'est quand c'est la vie, mais c'est plus marrant, c'est plus émouvant, c'est plus beau, c'est plus fort. Et du coup, quand le film s'arrête, je pense à ma vie, je me dis qu'elle est pas si mal et puis je me dis, putain, je suis pas tout seul dans l'univers parce que toi, t'as rigolé au même moment et toi, t'essuies tes larmes un peu en même temps que moi. Donc on est tous un peu connectés et au final, la vie c'est cool, quoi. Donc moi c'est ce que je cherche en tant que spectateur et je pense qu'on est très nombreux à chercher ça au cinéma. Et ça c'est assez français, je trouve, quand même, dans d'essayer de trouver des personnages qui font vraie vie. Tu vois, même je te prends un exemple qui a rien à voir avec ce que je fais, mais les Tuches. T'écoutes les gens parler des Tuches. C'est leur voisin, quoi. Ils disent, ah bah putain, de toute façon, mon voisin, c'est Jeff Tuche. Tu sais, ils ont ce besoin toujours de ramener le cinéma ou autre chose, hein, mais en tout cas, le cinéma à des trucs de leur quotidien et que d'un coup, ce qui va leur faire rire, c'est les travers de ce mec parce qu'ils vont dire que ça leur rappelle leur voisin, mais qu'en vrai, ça leur rappelle eux, tu vois. Et ça, je trouve que c'est super intéressant et très français. C'est pour ça que dans le générique, je mets beaucoup de remerciements à tous ceux qui m'ont inspiré dans leur cinéma et que je mettais aussi le Splendide parce qu'en vrai, le Splendide. Pareil, ils ont ce truc-là d'écrire des personnages. C'est très écrit, il y a des punchlines, il y a des situations qui sont hors de la réalité. Mais tous les personnages te font penser à des gens que tu peux croiser quand tu vas en vacances, dans un repas de famille. Je sais pas comment expliquer, ils existent. Alors que parfois, dans le cinéma américain, en tout cas celui qui est populaire, je trouve que les personnages n'existent plus trop. Et d'un coup, il va se passer un truc où tu te dis « Ah ouais, oui, d'accord, je suis dans un film ». Tu vois, d'un coup, là, j'y crois moins. Mais c'est pas grave, parce que c'est le cinéma américain, donc il y a un beau travelling pour me le vendre, donc c'est OK. Mais j'y crois un peu moins. Alors que Carverne des Lépines, ils sont dans des trucs très poétiques, mais les personnages existent. Alors que pareil, c'est dans un niveau de ubuesque fou, mais ils existent. Et ça, je crois que c'est quand même assez français, quand même.
Bah, c'est marrant, parce que à côté de ça, un des dénouements qu'on va pas révéler ici, hein, de ce que le père va faire avec son fils.
Oui, très américain.
Très américain, pour le coup.
Mais on le joue comme ça. C'est-à-dire que, alors c'est difficile d'en parler sans en parler,
c'est ça.
Mais vu qu'on parle d'un personnage flamboyant, ridicule, et qui à chaque fois, c'est limite movie versus life, hein, d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois il se prend la réalité de la vraie vie qui est plus sec que ses souvenirs qui sont très fantasmés, là d'un coup il va mettre le fantasme au service d'autre chose, et là j'avais besoin de...
Mais c'est cool aussi, hein, tu vois.
Non, mais c'est fait exprès, en tout cas, tu vois, on a envie, et c'est pour ça que... alors, il a une petite casquette, voilà, j'en dis pas plus. on joue le truc à 200%, tu vois, on joue ça parce que là, c'est lui qui se déguise presque, tu vois, qui se met dans un film. Et c'est même le bon moment du film pour épouser ce truc-là de, allez, vas-y, là, on y va, quoi. Mais oui, oui, complètement.
Oui, puis je pense que c'est un peu un clin d'œil conscient et inconscient à toutes les personnes qui ont à peu près 30 ans et qui ont grandi avec justement des comédies teenage où à la fin, il y a toujours un petit truc en plus, genre, ou même au début, hein, dans 10 bonnes raisons de te larguer, d'un coup, il prend un micro et il chante, ou dans Princesse Malgré Elias. Enfin, bon, vous voyez ce genre de comédie.
Bien sûr,
Moi, je l'ai vécu vraiment comme un clin d'œil générationnel à, bon, bah là, on va un tout petit peu over the top. C'est crédible.
Ouais.
Mais ça apporte le petit soupçon de magie qu'on aime bien au cinéma.
Et puis ça fait marrer les gens en plus. Bah, tiens, il y a un truc, ça les fait kiffer. Ils se disent, t'as quand même envie d'aller jusque-là, je crois, parce que moi, j'ai été très surpris de l'aspect parfois un peu plombant du film. Enfin, tu vois, des gens qui m'en ont parlé. Je sais pas si je suis sans cœur, mais j'ai été surpris parfois de gens qui viennent me parler, qui me disent, putain, ça c'était quand même dur à. Tu vois, l'engueulade, il y a une scène d'engueulade avec un peu tout le monde à un moment. Il y a des gens qui m'en parlent vraiment en me disant, c'est une scène dure, quoi. Ça les ramène à des trucs. Et sur le moment, moi, j'avais l'impression d'avoir juste fait un truc crédible, comme j'ai vu des centaines d'engueulades dans ma famille. Mais j'avais pas l'impression que c'était si dur que ça, quoi. Et au final, ça heurte les gens. Donc tu te dis, ah, c'est cool si derrière, on peut aussi quand même les récupérer avec des trucs un peu mignons, parce que l'idée, c'est quand même qu'ils passent un bon moment, quoi.
Il y a ça, et il y a aussi, c'est marrant, parce que pareil, j'en parlais avec des gens qui ont vu la Projo Presse avec moi, des petits détails. Pour les gens qui suivent ton travail depuis quelques temps, alors est-ce que c'est des clins d'œil, est-ce que c'est des références, on appelle ça comme on veut, mais disons qu'il y a un moment le Puy du Fou Sardou, écoute le Floodcast, à un moment ça rappelle quelque chose.
Bien sûr. Ben en fait c'est ça que j'aime bien avec le Floodcast, c'est que c'est des références qui viennent pas de nulle part, c'est que à la base ça nous faisait rire dans le podcast et ça a pris un peu avec le public, mais à la base c'est juste c'est drôle. Un mec qui va au Puy du Fou et qui croit que c'est chambé, c'est drôle parce que c'est nul, tu vois. Et le Futuroscope, pareil. Et Sardou, l'ironie de faire une baston pseudo incroyable sur une marche militaire. Et ce qui est génial avec Sardou, c'est qu'il en fait des surcaisses. Et aussi, on le présente un peu le background du couple, quoi. Tu vois la déco de leur appart quand ils étaient jeunes. Tu vois leurs références. Donc tu sais que Sardou, comme le Normand, c'est une blague entre eux, tu vois.
Bien sûr.
Et ça, c'était important pour moi que si t'as jamais suivi ce que je fais, il y en a beaucoup. Ça te
pose pas problème, c'est pas
il faut que ça te fasse marrer quand même, et moi je pense que c'est marrant quoi qu'il. Après,
c'est une vanne qui est utilisée dans Simple comme Sylvain aussi, hein.
Bah ouais, il y a Sardou
aussi qui revient et qui de base est quelque chose d'un peu ironique pour elle et qui devient quelque chose d'émotionnel en fait.
Ouais, c'est ça. Bah j'y ai pensé quand je suis allé voir le film, en plus c'est un de mes films préférés de l'année dernière, Simple comme Sylvain. Et quand j'ai vu le truc, j'ai fait oh putain. Après heureusement eux ils en font un vrai truc son rapport au gars. Et nous, c'est plus pour la comédie, disons, plus pour la blague. Mais oui, bien sûr. Et effectivement, moi, j'ai grandi. Bah, tu vois, j'ai du Kevin Smith sur moi. Mais je pense que mon premier émoi cinéphile, entre guillemets, c'est un peu comme tout le monde, Tarantino et tout. Et il faisait ces trucs-là. T'en as rien à foutre de la marque du paquet de clopes dans tel film. Mais si t'en as vu des autres, tu te sens un petit peu, tu sens le petit coup de coude, quoi. Et bah, moi, je trouve ça cool parce que j'ai des gens qui suivent ce que je fais depuis maintenant 10 ans. Je ferai peut-être plus jamais de film de ma vie, donc c'est important pour moi de dire je vous oublie pas, quoi. Enfin, je sais aussi d'où je viens. Après, venez, on n'en fait pas tout un truc, on s'en fout.
C'est
quoi.
Là pour les gens qui savent.
C'est là, il faut pas que ça gêne les autres, il faut pas que ça. Mais tu vois, je différencie vraiment ça de faire jouer, par exemple, Adrien Méniel, Sébastien Chassagne, Sophie Marie-Laroui, qui eux, pour le coup, sont vraiment des comédiens dont je suis fan. Je les connais, ils sont déjà venus dans le podcast, mais je les ai pas amenés pour ça, je les ai amenés vraiment. Parce que je les trouve très très talentueux et que j'ai un accès direct à eux et qu'il y a une génération de gens que je trouve drôles et je trouverais ça trop con de m'en priver.
Après, t'as quand même écrit le personnage d'Adrien vraiment.
Pour lui.
En serveur, vraiment. Ouais. Tu t'es fait plaisir.
Mais
tu
vois. Est-ce que cette chemise est une punition?
Oui, bah tout. La boucle d'oreille aussi.
Tu t'es fait plaisir là-dessus.
Mais tu vois, par exemple, si vraiment j'avais voulu faire du fanservice, on aurait fait des blagues autour de trucs qu'Adrien fait dans le podcast. Il y aurait eu un saxophone, il y aurait eu un rasta blanc, j'en sais rien, mais. Pendant la scène d'Adrien, je voulais pas mettre des trucs en rapport avec le Floodcast parce que je voulais pas non plus que ça parasite le film pour les gens qui suivent ce que je fais. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, de regarder un film et comment dirais-je ? Je vais essayer d'être malin parce que je veux pas. Mais il y a des films parfois qui ont fait du fanservice et moi j'étais fan des gens qui faisaient le film et ça me sortait du truc. Et je disais, là du coup j'en ai un peu rien à foutre. Oui, bon bah j'ai la ref, mais tu vois, et ça me faisait chier parce que j'étais pas dans l'histoire. Donc moi, les références que j'ai essayé de mettre, c'est vrai qu'il y en a même plus au début qu'à la fin. Tu vois, c'est des choses de. J'ai essayé d'y aller avec parcimonie pour pas non plus que oui bah ce soit si t'as jamais regardé le podcast tu comprends rien à la moitié des vannes.
Non, c'est sûr,
ça c'était vraiment un danger que je voulais éviter, et il y en a quelques-unes subtiles qui nuisent pas aux blagues, enfin qui sont des blagues en elles-mêmes que tu connaisses ou pas l'émission, et si les gens l'ont c'est trop bien parce que bah ça fait 10 ans que je fais des trucs donc ça fait plaisir, mais si vous l'avez pas normalement vous vous marrez quand même.
Mais est-ce qu'il y avait pas un peu ce truc de justement avec Adrien tu peux te permettre de le pousser dans des retranchements, de le mettre dans ce rôle-là plus facilement qu'à d'autres?
Ah non, franchement, non. C'est juste que je connais son clown. Je trouve qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur dans le cinéma français, comme quasiment tous les second rôles que j'ai dirigés sur ce film d'ailleurs. Et du coup, je me disais, bah non, moi je connais son clown en fait. Ouais. Je sais. Moi je suis fan de tous ces gens, mais quand je dis je suis fan, c'est pas juste, ah je les aime trop, je veux trop les faire bosser. Non, je suis fan dans le sens, je connais tout ce qu'ils font. J'ai vu tout ce qu'ils ont fait, j'ai lu tout ce qu'ils ont fait. J'ai vu tous les films de Seb Chassagne, donc je l'ai vu jouer beaucoup de situations, je sais ce qui me fait rire chez lui et je sais en quoi ce qui me fait rire chez lui peut aller en harmonie avec ce que j'écris. Et c'est en ça que moi, je connais plein de gens très marrants qui sont pas dans le film, tu vois. Ouais. Des gens très talentueux qui ne sont pas dans le film. Fallait trouver des choses logiques, des choses qui ont du sens pour moi, pour l'histoire, qui parasitent pas, parce que même s'il y a le côté galerie de second rôle, que ça fasse pas non plus, c'est juste des gens qui passent dans le film, quoi. Bah non, il y a quand même la grande histoire qu'il faut perdre, que tous les second rôles, ils ont tous un bagage un peu tristoun en eux, et que tout ce qu'ils font, ça arrive en confrontation avec les Leroy, c'est pas juste gratos, ils font pas un sketch dans leur coin, c'est toujours avec la famille. Tout ça, c'était important pour moi, parce que j'avais besoin de faire, entre guillemets, un vrai film, quoi.
Si je résume, entre écrire la comédie, faire quelque chose qui te fait rire, ça aide juste dans l'écriture des personnages, avoir un cœur émotionnel au départ, faire attention au second rôle, etc., c'est quand même un putain de travail d'équilibriste, en fait, l'écriture.
Ah ouais, à fond, à fond. Mais c'était un travail d'équilibriste sur Vermine aussi, en vérité, je me rends compte que j'aime beaucoup ça, et après, en plus, c'est marrant parce que j'ai lu une critique sur mon film qui positive, mais qui me comparait au cinéma italien, tu vois. Et moi, je n'ai jamais vu de film italien. J'ai un vrai manque de culture sur le cinéma italien, et j'en suis désolé. Hein, je suis sûr qu'il y a des trucs super. J'ai vu 8,5. Enfin, j'ai vu des classiques, mais j'ai pas vu grand chose. Et apparemment, il y a ça. Mais moi, je sais que c'est ce que j'aime, parce que moi, je peux pas mettre des verres de sable géant dans mon film. Donc, mon seul petit truc, le seul petit truc que je peux faire pour que le spectateur, il soit un peu stimulé, c'est effectivement ces changements de ton, ces trucs un peu surprenants. Et parce que moi, c'est ce qui m'a plu, moi, au cinéma. Et c'est, parfois, le film est très grossier. Des fois, le film est très mignon, limite guimauve. Mais parce que c'est moi, c'est ce que j'aime au cinéma, c'est ce qui me plaît. Donc oui, travail d'équilibriste, et c'est en ça que je te parlais du montage, de toujours avoir d'autres versions potentielles, pour pas que le film tombe dans un truc qui me ferait chier, quoi. Et sur Vermine, c'était pareil, on avait mis beaucoup de comédie, parce que la comédie rend les gens attachants, c'est comme en soirée, tu vois, souvent c'est celui ou celle qui fait des blagues qui te met le plus à l'aise, quoi, et quand elles sont marrantes. Et comme dans un film, au final, si elles sont marrantes, normalement c'est bon, et quand elles sont pas marrantes, t'as vite envie de quitter la salle. Et voilà, et donc on avait mis ça, et après c'est au montage. C'est quand même ça qui est trop bien à faire avec les films, quoi, c'est qu'on a quand même le temps de se rendre compte. Ça prend du temps, donc vu que ça prend du temps, t'as le temps de te rendre compte de ce qui marche et ce qui marche moins normalement. Ce qui est important, c'est de se laisser des portes, non pas de sortie, mais vers d'autres pièces. Moi, c'est vraiment un truc auquel je crois beaucoup, c'est de se dire. Parce que c'est que de l'ego, en fait, souvent. C'est que de l'ego de se dire, je vais faire mon plan comme ça. Non, non, pas besoin de me couvrir. Non, non, mon dialogue, il est super. T'inquiète pas, pas besoin d'eux. Souvent, le spectateur, il est pas bête. Il le sent, en fait, quand d'un coup, ça marche pas. Et le seul fautif, c'est toi, hein, c'est le metteur en scène. Donc moi, non, je préfère m'ouvrir des possibilités, sortir de mon cerveau plusieurs fois, avoir du recul. Moi, j'ai fait beaucoup de projections test aussi. C'était important pour moi, avec des projections test avec des gens du métier aussi, tu vois, Marina Rollman a vu le film par exemple, Timothée Hochet a vu le film. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec le film, mais je voulais leur montrer, parce que c'est des gens dont j'aime le travail, que je trouve talentueux, avec qui je suis suffisamment à l'aise pour qu'ils me disent ce qu'ils aiment moins. Voilà, donc c'était un vrai travail collaboratif important, parce que sinon ça sert à rien, je trouve.
Mais tout ça, ça s'ancre dans un truc. Avec Sophie, on a un peu la même passion, elle et moi, sur les premiers films.
Ouais.
Où le premier film, c'est vraiment, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, hein. C'est peut-être mon seul. Donc, je suis obligé de mettre un peu tout de moi dedans. Et en même temps, tu mets tout de toi, et en même temps, t'arrêtes pas de nous rappeler que c'est un travail collaboratif, que t'es obligé de prendre du recul, qu'il y a, faut essayer de pas mettre d'ego dedans. Et en même temps, je trouve qu'on ressent l'honnêteté, la sincérité de la démarche de, effectivement, il y a un peu tout de, on se connaît pas non plus, tu vois, mais on ressent qu'il y a un peu tout de toi dans ce film.
Ah bah c'est ce que j'essayais de faire, mais ça vient peut-être de là aussi. C'est que vu que je raconte un peu mes parents, mon adolescence, ouais, je pense que j'ai besoin d'avoir un peu d'autres gens pour dire, bon attendez, c'est pas juste moi devant un miroir qui me touche la nouille pendant 1h40, c'est venez, on fait un film, enfin on fait un divertissement quoi. Et c'est ça qui fait que le film, il a mis du temps à se financer, parce que c'est un premier film, ça prend du temps, il nous arrivait plein de choses. C'est ce qui fait que tu tiens un peu à ton projet, c'est que tu te dis, putain, à chaque fois que je le filerai à des gens de différents âges, parce que moi, bah, tu vois, mon directeur photo à 60 piges, mon monteur à mon âge, mais les deux ados ont 19 ans, putain, ça connecte avec eux d'une certaine manière. Donc tu te dis, ça vaut le coup quand même, si le scénario connecte avec différentes personnes de différents âges, des gens qui travaillent dans le cinéma, donc des gens qui voient beaucoup de films. Tu te dis, ah, ça vaut quand même le coup de s'accrocher quand même. Donc du coup, c'est là aussi où l'œuvre collaborative, elle est importante. Moi, j'ai pas suffisamment confiance en moi pour être seul avec mon truc en disant, si, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est important de sentir avec des gens autour que l'histoire a l'air de connecter avec des gens.
Et c'est intéressant, je cherchais un parallèle pour essayer de montrer vers quel type de comédie en France on pourrait le faire un lien.
Wow.
Et en fait, dans le vidéoclub, tu dis un truc que je trouve... super et que je savais pas du tout, c'est que tu es allé voir Orelsan pour lui demander vers qui il a été, vers qui il s'est tourné pour produire Comment c'est loin, bah parce que tu le connaissais.
Ouais, on avait fait bloquer,
Et effectivement, il y a un parallèle un peu dans l'écriture de la comédie, mais qui est pas sur un gars toutes les 30 secondes et qui est un truc un peu plus lent. Et je trouvais ça pas mal le parallèle avec Comment c'est loin, même si c'est pas du tout la même histoire, même si c'est pas forcément le même ton, tu vois.
Non, mais on a aussi le même amour de cette France. Périurbaine, avec les zones, les parkings devant les intersports, les trucs comme ça.
Et au final, ce sont devenus tes producteurs.
Et au final, les producteurs, Nolita, sont devenus mes producteurs. Mais pas que pour cette raison, il y avait aussi un autre truc, c'est qu'ils ont produit pas mal de premiers films, et y en, dont certains que je trouve pas bons. Mais non, mais avec tout l'amour que j'ai pour eux, et puis ils savent lesquels dont je parle. Mais ce que je trouvais génial, c'est que je voyais toujours leurs auteurs derrière. C'est-à-dire que ces films-là avaient des défauts qui ne peuvent être amputés que par le scénariste ou le réalisateur. Tu sentais que c'était honnête. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est de l'instinct ou quoi, mais je sentais que là, c'est l'auteur ou l'autrice qui a dit ça marche et ça marche pas, quoi. Et je me dis, bon, bah, c'est cool, ça a l'air d'être des producteurs qui font confiance en la personne qui vient faire le film, donc je serai à l'aise, quoi. Parce que moi, quand je les rencontre, j'ai 26 ans, du coup, tu vois, je suis vraiment tout jeune, quoi. Donc j'avais besoin de me sentir bien. Et puis, c'était pas des énormes producteurs non plus, mais en même temps, ils avaient fait des gros films, enfin des, bah voilà, ils avaient bossé avec des Orelsan, des Jean-Paul Rouve, des Michel Blanc, enfin ils n'étaient pas non plus non, ils avaient produit pas mal de trucs, mais il y avait un côté artisanal qui me plaisait beaucoup et qui était totalement l'esprit de ce que je voulais faire et que je veux continuer à faire d'ailleurs. Là j'ai mon pitch et mon idée de deuxième film, le budget sera pas beaucoup plus gros que le premier si ça se fait, hein, parce qu'on en reparle mercredi. Mais voilà, on est déjà dans le budget qui, moi, me convient plus ou moins pour faire un film. J'ai pas des ambitions folles en tant que réalisateur. J'aime tellement ces gens-là, en fait. Les héros de mon film, c'est les héros dont j'ai envie de parler. Alors, je dis pas que je ferai que des trucs dans la France périurbaine, mais je sais que je ferai que des histoires de de ce niveau-là. Enfin, des héros, ils pourront vivre des aventures plus grandes, mais on sera sur des héros de un peu classe moyenne qui font ce qu'ils peuvent avec ce mélange de comédie et d'émotion. Je sais que c'est des endroits où moi je me sens à l'aise et où j'ai envie de raconter des histoires. Ouais.
Le film est aussi agrémenté d'un petit logo sur l'affiche parce que tu as un gorille rouge.
Ah oui,
l'Alpe
d'Huez. Bah ouais, bien sûr.
Et alors, en toute honnêteté, moi, c'est un truc qui m'a vachement surpris parce que pour moi, le festival de la comédie de l'Alpe d'Huez, c'est justement typiquement des comédies grand public, des comme ça, comme tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Et le fait qu'il récompense Nous les Leroy, je trouve que ça ouvre une ouverture, entre guillemets. Enfin, ça ouvre un truc que je trouvais pas positif.
Ouais, je sais pas. Moi, j'avais un peu d'une année à une autre, mais c'est aussi le fait d'avoir un jury.
Ouais.
Je trouve qu'il récompense des films très différents.
Ouais.
Parce que des fois, effectivement, t'as des films très gaguesques, entre guillemets, machin. Ouais. Et de temps en temps, t'as des films un peu chelous. Bah, tu sais, avec de l'émotion, ils avaient récompensé L'Ascension avec Ahmed Silla, qui était une comédie, mais qui était assez émouvante, qui avait en tout cas une histoire un peu tristoune. Moi, là où ça m'a touché, c'est que le jury, c'était Valérie Bonneton, qui est une actrice que j'adore. Mmh. Donc, ça m'a énormément touché à ce niveau-là. C'est vrai que cette année, ils ont eu pas mal de premiers films. Ça, c'était assez chouette. Il y avait Bis Repetitas d'Emily Noblet. Il y avait, alors, j'ai pas les noms de tous les réals. Si ils écoutent, je m'excuse auprès d'eux, mais il y avait L'Esprit Coubertin. Il y avait, il y avait pas mal de premiers films. Et ça, c'était chouette. Et je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je trouve ça cool que des réalisateurs et réalisatrices veulent faire de la comédie populaire en premier film, quoi. C'est chouette parce que moi j'ai toujours vu les jeunes vouloir faire soit des films tristes ou des films d'auteur ou des films non, là il y avait une volonté de faire de la comédie Et voilà, après, c'est que des gens que je connais pas. Non, mais je dis ça parce qu'il y a eu Première qui a fait un article très mignon la nouvelle comédie française, etc.
Essayer de faire des liens entre tout ça, justement.
Exactement, et c'était rigolo. Et ça a l'air d'être que des gens très sympathiques, mais moi, c'est vrai que je les connais pas. Mais j'ai hâte, voilà, Bis Repetita.
Mais tu les as vus ou pas, justement, ces films-là?
J'ai vu Bis Repetita, moi, et Heureux Gagnant, mais Heureux Gagnant, c'est pas un premier film.
Non.
Et Bis Repetita, j'ai trouvé ça très cool.
Okay.
Moi, j'ai trouvé que, enfin, il y avait des vraies choses chouettes de comédie, justement, un peu différentes. Et puis, bah, j'ai trouvé le duo Lacaille-Bourgoin extrêmement touchant. Enfin, touchant dans le sens, ça m'a fait plaisir de les voir, quoi. J'avais le smile pendant tout le film, quoi. Mais je sais que le cinéma de Mini Nomelet est très différent de ce que je fais, etc. Mais effectivement, je sais pas si ce prix veut dire quelque chose. En tout cas, ça veut dire que ce jury-là, il a vu quelque chose d'intéressant. Et j'espère que le public aussi. Mais en vrai, moi, j'ai pas l'impression. C'est pour ça que je cite beaucoup, beaucoup mes références. J'ai pas l'impression d'avoir réinventé la roue. J'ai l'impression qu'on est quand même dans des codes d'un cinéma. Après, là, je le dis avec vous parce qu'on est entre geekos, tu vois. Mais c'est vrai que moi, Apatow, je le cite assez peu, je le citais assez peu sur les financements, les trucs, parce qu'on parle d'un gars qui fait 8 entrées en France à chaque fois qu'il fait un film. C'est pas un cinéma qui... Moi, j'ai vu quasiment tous les films d'Apatow depuis Funny People au cinéma. Nous n'avons jamais été plus de 5 dans la salle. C'est-à-dire que même le Pete Davidson, là, j'y suis allé. Bon, alors, c'était Covid, donc c'est peut-être le mauvais exemple, mais Train Wreck avec Amy Schumer, on était 3. Je suis allé voir à l'UGC Normandie, ce qui passait dans aucune salle. Funny People, je me souviens, je l'avais vu au l'ancien des Halles qui était en sous-sol là. Enfin voilà, l'UGC, il y avait des salles un peu à l'arrache qui étaient mal isolées, t'entendais le métro, ils le diffusaient là. Voilà, c'est des films qui marchent pas en France, c'est connu, tu vois.
Ah ouais.
Bros, la dernière production à Apatow, je suis allé le voir au Publicis, quoi.
C'était ouais, mais seul... ça, c'est pour le coup, c'est parce que c'était une sortie, mais ça va dans ton sens, ouais. Hein, mais c'était une sortie technique.
Technique, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent le cas, j'ai l'impression, sur les films d'Apatow. En tout cas, c'est rarement des énormes trucs. Il vient pas les présenter en France. Enfin, tu vois, il y a mais un truc.
Je pense que c'est parce qu'il parle uniquement, enfin, pas uniquement, mais il parle majoritairement au public américain. Comme au final, tu parles beaucoup au public français. Je pense que le parallèle, il est là aussi. Il fait du croquis de personnages de personnes que lui connaît, comme toi, tu fais des personnages que tu connais aussi. Non, c'est rigolo quand Arthur a dit « Essaie de trouver une comédie qui ressemble ». Genre, d'un coup, dans ma tête, il y a plein de films qui sont venus en mode « Oui, qu'est-ce qui pourrait ?» Et en fait, c'est drôle parce que je me suis dit « Tiens, quelle comédie française j'ai aimée depuis un moment ?» Non, mais c'est vrai.
Bah oui. Là,
souvent, quand on me
demande... Nous, pour le podcast, on est obligé de regarder tous les gros noms. Donc, bon, moi, je me suis fait tout abonner à Fifi.
Ouais.
C'est bon.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas.
Non, on n'en voit pas beaucoup. Mais en fait, à chaque fois que je me dis, OK, quelle comédie j'ai vraiment aimée depuis un moment, je pense que ça remonte aux gamins, quoi.
Ouais.
Et je pense qu'il y a un peu ce truc de groupe de personnages hyper caractérisés et chacun avec une personnalité distincte. Et c'est vrai que c'est peut-être un truc qui manque en ce moment. C'est pour ça que je suis contente que ton film sorte.
Ah, c'est gentil. Mais après, je pense qu'il y a peut-être aussi un truc un peu générationnel. C'était un peu le piège que j'ai essayé d'éviter avec Première, parce que ça s'est super bien passé avec l'intervieweur et puis il a fait une super critique du film. Mais à un moment, il m'a demandé un peu mon avis sur le fait que certains films de grande pointure de la comédie marchaient moins ces dernières années. Il prenait l'exemple de Danny Boone.
Okay.
Et moi, je disais, j'ai rien à dire. C'est quand même, faut quand même pas oublier que s'il y a autant de comédies en France, c'est grâce à des mecs comme ça aussi. Enfin, tu vois, le Nous les Leroy n'existe pas sans Danny Boone. Il faut être très clair là-dessus, quoi. Donc moi, j'avais un peu un truc aussi de dire. Alors, ça veut pas dire que je le pousse vers la sortie ou quoi, mais je pense aussi qu'il y a un truc tout bonnement d'âge qui est logique. Et ça veut pas dire que c'est la fin de Danny Boone, parce que évidemment, les trois quarts des gens qui vont au cinéma, de toute façon, sont beaucoup plus vieux que Danny Boone. Donc il a largement le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est logique qu'il y ait aussi un peu des nouvelles têtes et que des gens de mon âge soient plus touchés par des films de gens de mon âge que d'autres, tu vois.
Mais ça
logique.
Va te faire avec ce que tu dis sur l'Alpe d'Huez, tu vois, quand on voit qu'il y a pas mal de premiers films et qui sont vraiment, pour le coup, entre Bis Repetita, L'Esprit Coubertin et le tien, différents, de voir qu'on s'essaye plus encore la comédie, qu'il y a des films qui sont produits en comédie, même si ça coûte pas grand chose. Quand même, ça veut dire que, effectivement, les jeunes cinéastes d'aujourd'hui se réapproprient ce genre-là qui a longtemps été monopolisé par des grands noms.
Non, j'allais dire que c'est intéressant que tu aies fait, au final, si on prend Vermine, un film de genre et une comédie qui sont sans doute les deux types d'écriture les plus. Je trouve qu'ils se galvanisent le plus en ce moment. C'est-à-dire qu'on a plein de nouveaux types de comédies et en même temps, on fait que parler, et nous, on en parle beaucoup dans le podcast, du renouveau du cinéma. Quand on dit, il y avait Vermine, Vermine, il y avait Gueule Noire, il y avait Acide, Le Règne Animal. Ouais. Certains qu'on aime pas, hein, peu importe, mais il y a des propositions, en tout cas de cinéma de genre. Mmh. Et en comédie, c'est vrai qu'on commence à voir une nouvelle génération arriver. Et c'est franchement, ça fait du bien. Quoi.
En tout cas, c'est rigolo à observer. Après, est-ce que le public suivra? C'est comme tout, quoi. C'est que, pour le coup, le genre, pour l'avoir vécu de près, c'est toujours ce truc de. Ah bah non merde, ce sera pas celui-là. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu la bagarre et on est toujours tellement heureux quand ça fonctionne. Mais moi, on verra. Après, moi, la différence, j'ai l'impression, en tout cas, dans le côté comédie, c'est que mes héros ont quand même 50 piges, mine de rien. Donc, est-ce que les gens de mon âge vont quand même s'y intéresser? Est-ce que les gens de l'âge de José et Charlotte vont s'y intéresser parce qu'il y a José et Charlotte? Tout ça, j'en sais rien. Il est encore trop tôt pour le dire, là, à l'heure où on enregistre. Mais oui, moi, en tout cas, j'ai essayé de... J'ai vraiment voulu faire un film qui pourrait parler à plusieurs générations. Donc, évidemment, d'abord la mienne, parce que j'ai l'âge que j'ai.
Ouais.
Mais j'aimerais vraiment que des ados venir...
Pourtant, il n'y a aucun personnage de notre âge dans le film.
Oui, c'est la liste gros rôle un petit peu, quoi. Mais oui, je suis d'accord. Mais j'aimerais que les jeunes se retrouvent chez les jeunes, que que les gens de l'âge de José et Charlotte se retrouvent chez les personnages de José et Charlotte aussi. Et d'ailleurs, encore une fois, dans les avant-premières que j'ai, parce que c'est le seul exemple que j'ai en ce moment, c'est le cas, quoi. Moi, j'ai vu une quantité de mecs et de meufs de 50 piges ou de 40 piges, mais qui viennent de divorcer ou des choses comme ça. Et c'est fascinant, quoi. Tu te dis, c'est génial. En fait, ça donne un sens à ce qu'on fait quand même, mine de rien. Ça peut paraître con, hein, un peu naïf, hein, mais moi qui suis pas très sociable, qui a pas eu beaucoup d'amis au collège, etc., etc., et où le cinéma m'a vraiment aidé à rester un peu connecté au monde et à sortir un peu de ma solitude, etc., en voyant d'autres vies via les films. Là que des gens viennent me voir grâce à un film pour qu'on parle, les gens me racontent leur vie, quoi. Mais c'est assez touchant. D'un coup, ils disent, bah ouais, parce que moi, pareil, mon père, il était malade. Et tu fais, waouh. Mais en même temps, mais c'est extraordinaire. Tu te dis, putain, alors si juste une comédie fait ça, j'ose même pas imaginer.
Franchement, je pense que tu as des meilleurs retours post-projection que How to Have Sex ou. Non, mais c'est rigolo.
Il m'avait la même chose. Je voulais peut-être pas le savoir.
En fait, c'est ça qui est arrivé à la réalisatrice. Elle a arrêté les Q&A parce qu'elle avait trop de. Moi aussi, ça m'est arrivé. Alors que, genre.
À notre tout petit niveau, et je compare évidemment pas à ce film, mais même dans le podcast, nous, par exemple, Adrien, il est assez. Libre sur sa façon de parler parfois de la dépression, de fait d'avoir perdu ses parents, etc. Et du coup, on est obligé des fois de donner des limites dans le podcast parce que, et je comprends, les gens, en plus, le podcast, vous le savez aussi, même si vous faites plus de la culture, etc., mais tu crées quand même un lien qui est un peu étrange parce que tu parles pendant des heures chaque semaine dans leurs oreilles.
Les gens, tu penses qu'on a un ami.
Ouais, puis t'es avec tes potes, donc ils sont un peu comme avec toi, et c'est comme ça où nous on a dû commencer à dire, désolé, vous n'êtes pas nos amis et tout, c'était pas par méchanceté, c'était juste pour dire c'est une relation quand même que dans un sens, faut pas oublier, donc c'est cool, on connecte, on partage, et c'est pour ça que je suis trop content de faire ce film, parce que c'est une façon de connecter avec les gens où je parle un peu de moi, et eux ça les touche chez eux, et c'est trop bien, je trouve ça méga sain, tu vois, parce que moi c'est comme ça que j'ai connecté avec plein d'artistes, et ça me suffisait largement. Et le podcast, des fois, c'était un peu ça. Surtout Adrien, il recevait des fois des pavés de gens qui n'allaient pas bien. Et déjà que lui, de base, n'était pas au top.
C'est difficile.
Il n'avait pas besoin de rajouter des couches et des couches et des couches.
Juste pour terminer, parce que ça me fait penser à un dernier truc que je voulais aborder avec toi, c'est qu'effectivement, il y a le côté podcast, la proximité, etc. Il y a quelque chose aussi qui est, je pense, valorisant pour les gens de notre âge, c'est de voir quelqu'un qui a émergé grâce à Internet réussir à sortir son premier long. Alors, t'es pas techniquement le premier.
Et
c'est ce que tu disais également dans le vidéoclub de Comini, c'est on a eu longtemps tendance à se moquer des films avec des youtubeurs entre gros guillemets, ce qui veut rien dire. Il y a quelque chose qui est assez pas valorisant mais qui fait du bien en fait, voir quelqu'un qu'on a vu émerger d'internet, avec qui on a grandi aussi, tu vois, comme les gens qui écoutent le podcast, tu vois. Et de voir que cette personne a réussi à faire un long. Déjà quand on a vu des gens d'internet commencer à écrire des séries, on s'est dit waouh, ça devient quelque part plus concret, et là un long pareil. Est-ce que tu ressens un petit peu ce truc là ou pas?
Oui, mais moi j'essaye d'être méfiant avec ça aussi, et je vais essayer d'être le plus comment dirais-je, je vais faire attention à ce que je dis parce que je veux pas que ce soit mal pris, parce que moi internet a été capital et l'est toujours d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui tu vois les avant-premières on les remplit grâce au Floodcast, donc grâce à internet. Après moi j'ai jamais eu ce truc militant qu'ont pu avoir certains, parce que moi je suis pas quelqu'un qui se réclame d'une génération internet, parce que je trouve que déjà internet c'est tellement large, ça comporte tellement de choses, ne serait-ce que même YouTube, je parle de la fiction YouTube, il y avait tellement de choses différentes, des choses dans lesquelles je me reconnais énormément, des choses dont je me reconnais, avec lesquelles je me reconnais pas du tout. Je fais attention à ça, moi je dis juste je fais partie d'une génération d'auteurs, d'artistes, de comédiens, comédiennes, réalisatrices, réalisateurs. Mais j'ai fait mes classes, moi, parce que quand j'ai commencé, Internet était un tremplin. Alors, je sais que ça se fait pas de dire ça maintenant, parce que c'est un vrai métier, et c'est pas pour dire que c'était pas un vrai métier. Mais à l'époque, c'était qu'un tremplin, parce que moi, je gagnais pas très bien ma vie grâce à Golden Moustache, même si ça a été une chance incroyable, et que je ne voyais pas ça comme un métier à terme. Et j'ai eu plutôt raison, puisque la fiction sur Internet, c'est quand même un peu pété la gueule avec l'arrivée de Netflix. Enfin, pas que, mais ça a beaucoup joué. C'est que nous, les jeunes, regardaient ce qu'on faisait parce qu'ils n'avaient pas accès à d'autres trucs de streaming. Et qu'aujourd'hui, bah, entre des sketchs Golden ou Stranger Things, bah, je comprends que les jeunes, ils aillent plutôt voir Stranger Things. Mais à côté de ça, moi, je voulais faire attention parce que... Et je suis trop content, je reçois des gens qui me disent bah, « Nous, on est fiers que tu aies réussi. » Et effectivement, c'est galvanisant. C'est aussi une énorme source de stress parce que moi, j'aime bien le côté artisanal de « Je vous ai fait ça ». Pouvez le, si vous avez le droit de le détester, mais au moins c'est pas lié à moi, je vous ai juste fait un truc et vous le regardez, vous rigolez pas, vous aimez pas. Quand d'un coup on dit putain, on est fier de toi, t'as fait un film, fais voir, tu dis waouh, mais là si t'aimes pas, c'est vraiment contre moi que c'est adressé, tu vois. Mais c'est rigolo,
ouais, je comprends
mais
ce que
mais
tu
en
veux
vrai,
dire,
c'est vrai, c'est un vrai truc. Je le sens quoi, c'est quelque chose que moi je ressens. Alors c'est peut-être aussi moi qui dois un peu gérer mes émotions vis-à-vis de ça, mais c'est un vrai quelque chose qui est important et moi j'y vais vraiment. J'ai l'impression que je dis trop modestement et que ça fait de moi plutôt quelqu'un de prétentieux, mais c'est vraiment modestement parce que je suis juste quelqu'un qui a écrit et réalisé un film. C'est déjà énorme, mais je suis pas voilà, c'est pas un combat que je mène contre le cinéma et tout. Moi, il y a deux stars à l'affiche, par exemple, tu vois, il y a Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Il y a un vrai truc où je joue aussi avec les codes de comment on fait un film, et en jouant avec ces codes-là, j'ai joui d'une liberté totale avec des scènes de dialogue. Tu sais, on a un film financé par TF1 et ça parle de bandé avec des ados, tu vois, et dans le sens de dans une comédie, tu vois. Donc la liberté, elle est totale, mais je fais quand même attention à ce truc de genre d'internet qu'on n'a jamais écouté, que maintenant c'est pas vraiment vrai, quoi. Je pense aussi le vrai truc qu'on dit jamais sur les gens d'internet, et j'en ai fait partie, moi, à l'époque de Suricat, j'étais vraiment comme ça, c'est qu'on avait de l'ego aussi, c'est-à-dire qu'on était un peu des gens qui disaient bah franchement, avec le recul, mais c'est normal, on avait 20 piges,
bien sûr,
on était tout jeunes, mais il y avait un peu un truc de ah ouais, la télé elle veut pas de nous, le cinéma non plus, bah c'est qu'on est comme ça. Non, c'est juste qu'ils avaient pas confiance, ils ne comprenaient pas comment ça marchait. C'est pas qu'on était hors système, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça faisait. Et moi, quand je me suis fait jarter de sur E4, ça m'a appris l'humilité, ça m'a appris à dire ok, moi je vais juste devenir auteur réalisateur, ce qui est déjà encore une fois énormissime, et j'ai écrit pour d'autres et j'ai appris mon métier et j'ai appris l'humilité de ce travail là qui est tu es au service d'une œuvre d'art, tu es au service de quelque chose qui te dépasse, de plus gros que toi, et tu es un artisan de ça. Et tu vois, bloqué, on était 5 auteurs, c'était Aurel San et Gringe à l'affiche, et j'ai trouvé énormément de bonheur à ça. Donc j'avais pas ce truc de on est internet et on arrive à la télé, au cinéma, surtout que tu vois, une de mes rencontres où je me suis le plus connecté avec des gens, c'est des gens comme Charlotte Gainsbourg, qui a 20 ans de plus que moi. Jonathan Cohen n'a jamais fait une vidéo sur internet, Sébastien Chassagne non plus. C'est des trucs où c'est devenu un peu un fourre-tout internet où on dit génération YouTube, tu vois, et où tu dis bah, en vrai de vrai ça veut un peu tout et rien dire, quoi. Je pense que ma façon de voir la fiction et la création est très différente de François Descraques, qui est très différente de Franck Gastambide, qui est très différente de Max Boublil, tu parlais des gamins, qui est un gars qui vient d'internet, que le Palmacho, que voilà, que tous ces gens là quoi. Donc c'est pour ça que je fais toujours un peu attention à ce truc là et mais ceci étant dit, moi, je ne serais rien sans cette période d'Internet. Et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens de YouTube dans mon film, mais en vrai de vrai, c'est des gens marrants, c'est juste des gens talentueux, c'est des acteurs. Personne n'arrive vraiment dans le cinéma comme ça. C'est-à-dire que les plupart des acteurs, ils avaient un truc avant. Marina Foïs, Cadmerad, Jean-Paul Rouve, ils viennent de la télé. Ils faisaient les Romain Desbois, Cadéo, Chabat faisait de la télé, Garcia fait de la télé.
Virginie Efira.
Tu arrives rarement dans le cinéma direct. Et avant ça, c'était les gens du café-théâtre, Clavier, Chazelle, Balasco, tout ça. Et puis avant ça, t'avais le théâtre dit plus classique. Et tu vois, même les Marx Brothers, ils ont commencé, ils faisaient de la scène à Broadway et après, ils ont fait des films. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tu viens d'un endroit.
Bien sûr.
Donc, ce truc de.
Que cet endroit soit le théâtre ou Internet, au final, c'est pareil.
Exactement. Et du coup, je suis toujours un peu méfiant avec ce discours qu'ont un peu tous les gens d'Internet de dire il a fallu jouer des coudes, etc., etc. Au final, regarde aujourd'hui, quoi. Laura Felpin a un Molière, Jérôme Niel remplit les salles, je fais mon premier film au cinéma, j'ai 32 piges.
Mais c'est trop beau.
Mais c'est ça. Et c'est de dire il faut faire attention à ce côté victime un peu de gens d'Internet, qui est en fait plus une posture parfois où il faut faire attention parce
que c'est intéressant,
on a le droit de faire des films, quoi. C'est fou la chance qu'on a aujourd'hui. On a accès à tout ça. C'est juste que le cinéma, comme l'était Internet, il y a un peu des codes avec lesquels il faut jouer. Il faut montrer pas de blanche sur des trucs et niquer deux, trois autres règles à côté. Et c'est ce truc-là qui est, moi, je trouve génial. Mais c'est vrai avec la télé, c'était vrai avec Internet, c'est vrai avec le podcast, c'est vrai avec tout.
Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Florent.
Ben merci à
juste
vous.
Juste pour terminer,
ben oui.
On a un dernier truc qu'on fait dans nos interviews. Je sais pas si tu as suivi. On a fait une saga cet été avec nos films de la honte.
Bien sûr.
Ben oui.
Et vu que on a beaucoup parlé de comédie, on aimerait peut-être centrer sur justement quelle serait ta comédie de la honte, le film
que j'ai pas vu.
Que t'as pas vu.
Ah putain, la comédie.
Et quelle ça pose problème.
Ah ouais ouais putain, j'avais mon film de la honte mais j'avais pas pensé comme ça. Laisse-moi deux secondes.
Parce que c'était quoi ton film de la honte sinon?
Ah bah oui.
C'était Elephant Man et Mulholland, enfin David okay. Lynch en règle générale. J'ai vu C'est l'heure et Lula, une histoire vraie.
Pourquoi t'as vu une histoire vraie?
Bah ouais, c'est ça.
Et parce que c'est un vieux sur un tracteur, c'est littéralement ma jeunesse. Donc
je
voulais,
c'est un des seuls qui me manque.
Mais je l'adore en plus, j'adore ce film. Putain. Mais voilà. Alors putain, une comédie que j'ai pas vue. Alors attends, vas-y, je vais essayer d'aller dans les Français. Putain, mais j'en ai vu beaucoup hein. Pardon hein, ça fait vraiment trop de balles mais ah si, vas-y, j'en ai une.
Vas-y.
Je n'ai jamais vu, je pense, enfin je vais vous dire tous les titres, j'ai jamais vu quasiment toute la carrière de Charlie Chaplin. J'ai jamais vu Le Dictateur, j'ai jamais vu Les Temps Modernes, j'ai juste vu Le Kid, parce qu'il durait 1h10, j'ai très honte. Mais j'ai jamais vu la ruée vers l'or, Les Lumières dans la ville, enfin c'est-à-dire que je connais hein, de nom tout ça, Les Temps Modernes, je vois bien, les écrous, les trucs, mais je n'ai jamais vu ces films, voilà. J'ai une vraie manque de... Et alors du coup, Buster Keaton, tout ça, je vous en parle même pas. Mais c'est vrai que j'ai essayé, et à chaque fois, je me fais un peu yesh et du coup j'arrive pas à aller au-delà de ça. J'arrive pas à dépasser ça et c'est vrai que quand j'ai découvert les Marx Brothers quand j'étais plus jeune, j'avais un peu un truc, c'est vraiment ridicule hein, de bon bah c'est bon, j'ai mes vieux de la comédie où je connais tout, pas besoin trop de zioter tout le reste quoi. Mais Chaplin, j'y arrive pas. Je m'ennuie un peu toujours devant. Mais vu que j'ai une petite fille maintenant, je me mets un peu l'espoir de dire ça peut être un bon pas
bah,
de découvrir
vrai,
ça
peu,
avec
crois...
elle.
Chaplin, bah ouais. Je crois que Chaplin chez les gosses, ça fonctionne un peu quand même.
Ça fonctionne de ouf.
Et c'est pour ça que je me dis, le découvrir avec elle, faire des ciné-clubs de Bobo ou Luxor ou un truc comme ça avec elle, ça peut être pas mal de le découvrir ensemble. Donc voilà.
Eh ben, trop bien. Merci beaucoup, Florent.
Mais
nous, Le Roi, qui est donc en salle quand les gens nous écoutent là.
Depuis mercredi, ouais, ouais.
On sait que la première semaine est importante.
Bah c'est ça, c'est toujours comme d'hab. Après, c'est toujours nul. Je veux pas faire de demander l'aumône ou des choses comme ça. Mais oui, parce qu'on est un... On reste un petit film, on a de la chance hein, pour un premier film, c'est déjà très bien.
Tu sais combien de copies?
On l'a reçu aujourd'hui, je sais plus exactement, mais on n'est pas si mal, mais on doit être un peu moins de 300, je pense, un truc comme ça. Et effectivement, c'est fou, tu te rends compte que tout est contre toi. Moi, je savais pas. Là, on m'a dit putain, mercredi, il y a PSG-Barça. Et je fais ah ouais! Ah merde, ah ouais, ça aussi, ah d'accord. Putain, ça se réchauffe le temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, donc tu découvres tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc de. Dès la première semaine, ça peut tout peut se jouer quoi. Surtout que je pense que c'est un film encore une fois et c'est pas pour me jeter, c'est pas pour me fouetter avec des orties, mais c'est le pitch, c'est pas le truc qui viendra choper les gens en premier. C'est vraiment le bouche à oreille. Donc si vous aimez juste vous marrer et être ému, n'hésitez pas à y aller. Et je suis persuadé que le bouche à oreille peut faire un bon travail en tout cas. Je sais pas si on fera une grosse première semaine, mais je sais que les gens qui le verront, enfin je sais, je pense que les gens qui le verront peuvent en tout cas en parler en bien, parce que même si vous aimez pas tout du film, les gens sortent souvent contents du film. Contents et émus, voilà c'est ça.
Et ben merci beaucoup Florent.
Mais merci à vous, j'étais trop content. Bah ouais, écoutez, je prends.
Et à bientôt.
À vite.
Et on dit au revoir aussi aux personnes qui nous écoutent. À bientôt.
Salut tout le monde, ciao.
Ciao.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.